Ultrason.
Ultrason.
L'invité de la semaine.
Bonjour, soyez les bienvenus sur Ultrason. Cette semaine, je reçois le groupe Djendo. Alors, Djendo, c'est un projet musical belge composé de 5 musiciens. J'ai le plaisir de recevoir Laetitia, la chanteuse du groupe à la voix unique. Bonjour Laetitia.
Bonjour Mike.
Vous êtes venu nous présenter votre nouvel album sorti le 15 mars dernier. Juste avant de parler de votre nouvel album, on va faire un peu connaissance avec vous. La première question que j'ai envie de vous poser concerne le choix du nom du groupe. Alors, Djendo, c'est un peu le pendant de Madame X en français. C'est une expression anglaise, hein, c'est ça, qui désigne une personne non identifiée.
Non identifiée ou amnésique. Mais pour le coup, nous, c'est pas du tout pour ça qu'on a choisi ce nom-là.
Ouais, alors pourquoi avoir choisi le nom du groupe ?
Nous, on l'a choisi plutôt parce que c'est une quête d'identité. Enfin, moi, je trouve que la vie est une quête d'identité. Est-ce qu'on a vraiment une identité ? Est-ce que c'est pas un fantasme de se dire qu'on a une identité ? Quand on arrive sur Terre à notre naissance, on a déjà quand même pas mal de d'héritages là qui ne sont pas spontanés, qui viennent de nos familles, des gens avant nous, le choix des prénoms, suivant qu'on soit né dans l'Occident ou pas.
Oui.
Le choix d'une religion. Donc, on est quand même déjà vachement conditionné à devenir une personne ou une autre.
C'est ça, suivant l'endroit où on est.
Exactement. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et si on n'est pas d'accord avec ça,
On peut changer aujourd'hui.
On peut changer, oui, à plein de niveaux, mais ben, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas synonyme de tension.
Mm-hmm.
Après, accepter une identité, est-ce que ça vient de l'autre ? Est-ce que ça vient de soi ? C'est exigu, c'est compliqué parfois d'habiter une identité. Et puis, il y a beaucoup d'attentes dans une identité. On est une femme, on doit être féminine, ou on est un homme, on doit être comme ci, comme ça. Enfin, c'est très politique, en fait, l'identité. Et donc, moi, ça m'a souvent posé question. Et je me suis dit, ben voilà, Djendo...
Par rapport à la musique.
Et par rapport à la musique, idem, en fait, on vient tous d'influences complètement différentes. Et c'est tout à fait par hasard, finalement, qu'on s'est retrouvés dans ce projet. Enfin, au départ, on était rassemblés sur un autre projet, puis on s'est dirigés vers Djendo. Mais il y avait peu de chances qu'on se retrouve à un carrefour où on avait une vision commune, parce qu'on a vraiment des influences au nord, au sud. Oui.
Ouais.
Et tout l'enjeu, c'était de trouver notre propre identité, quoi. Et justement, l'album dont je viens vous parler d'un album qui s'appelle Cosmogonie, et je vais pouvoir vous expliquer justement en quoi c'est en lien avec cette quête.
Djendo, c'est vraiment tout un univers. Alors, parlez-nous un petit peu de cet univers. De quoi parlent vos chansons ?
Parle de quoi nos chansons ? Elles ont parlé d'identité, elles ont parlé d'anthropocentrisme, elles parlent de légendes nordiques. Elle parle de quoi ? De particularité mentale.
J'ai pu lire que ça avait un trait à l'univers, à l'étrange, au merveilleux.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu clair-obscur. Donc, je pense qu'on est quand même dans un univers sombre, mais il y a toujours une petite touch de lumière. En tout cas, on cherche la lumière. Il y a dans le noir ce besoin de contempler... malgré tout, enfin, je veux dire, on n'est pas que sombre, quoi. On est coloré et attiré vers la lumière et dans la contemplation et dans le merveilleux, mais aussi vraiment dans l'étrange.
On comprend que c'est un univers particulier. Est-ce que c'est une musique qui est accessible à tout le monde ?
Ben ça, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, tout le monde, de nouveau, question d'identité.
Voilà.
derrière tout le monde, ben, je ne sais pas qui peut s'identifier. Je ne pense pas qu'on soit un tout public. Après, il y a peut-être des titres dans notre EP ou dans notre album qui vont toucher plus de personnes parce que peut-être plus accessibles. Il y a des titres qui le sont beaucoup moins. Donc, c'est difficile à dire, ça.
Comment est-ce qu'on peut qualifier votre musique ? C'est quoi ? C'est de la dream pop ? J'ai vraiment du mal à qualifier la musique. Est-ce que ça se qualifie déjà ?
Alors ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent et c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre parce que, de nouveau, je pense qu'on a, nous, en tant qu'humains, besoin de faire des catégories pour comprendre ce qu'on découvre, pour comprendre ce qu'on rencontre. Et nous-mêmes, on ne sait pas, on se laisse juste porter par ce qui se raconte. On dessine des portraits et on voit ce que ça donne et on est acteur dans ces histoires qu'on monte. Alors après... on pourrait dire qu'on est dans la grande famille du rock alternatif, mais ça ne veut plus rien dire non plus.
Non, c'est vaste.
Donc, rock alternatif, il y en a qui nous disent ambiante, il y en a qui nous disent post-rock, il y en a qui nous disent quoi, dream pop.
Ouais, finalement, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. C'est ça. Quelles sont vos influences, en fait ?
Elles sont souvent nordiques. Sigur Rós, Björk, Fever Ray, Roy Xop, Mais Rammstein aussi, ouais. Ou qui d'autre
est-ce que tous les musiciens qui composent le groupe ont les mêmes influences ou pas?
Ah non, pas du tout. Non. Dans les guitaristes, il y a des gens qui sont plus dans The Cure, des trucs un peu dark, mais qui restent pop, d'autres qui sont plus metal. Oui, il y a quand même un héritage metal chez Gendo, et qui quand même est commun, je pense. Et peut-être que c'est là aussi qu'on se retrouve dans le rock, on va dire. Après, toutes les influences nordiques, elles viennent plus de moi. Et de Pat, le bassiste.
D'accord. Vous avez commencé tous ensemble ?
On a commencé à trois. Après, sont venus se greffer la quatrième personne et puis la cinquième personne ici, dernièrement, Sébastien, le deuxième guitariste, enfin le guitariste, le nouveau guitariste. Quoi.
Ok, c'est toi qui as créé le groupe ?
Oh, non, on l'a créé à trois.
À trois.
On était sur un projet que je reprenais parce que la chanteuse était partie et ça ne m'allait pas du tout en fait. Ça ne me correspondait pas vocalement, enfin je ne trouvais pas ma place. Et puis on s'est dit, on va peut-être réécrire là un truc ensemble. Et on a réécrit, voilà, à trois.
Parle-moi un petit peu de ton processus de création musicale en fait. Comment naissent les chansons de Gendo ?
Alors elles ne naissent jamais d'un texte. Alors c'est marrant parce que je suis chanteuse, alors on pourrait croire, et moi-même je suis surprise. Peut-être aussi parce qu'à la base, j'étais pas chanteuse. J'étais peut-être pas vouée à devenir chanteuse. À la base, on nous a mis un piano dans les mains quand on était petit à la maison. Et on n'a pas fait l'école de la musique. Hein. On est tous autodidactes. Mais on nous a offert un piano qui était à la maison. Et mon frère est parti avec son piano quand il est parti étudier à Liège. Et donc, je me suis retrouvée sans piano. Et je me suis vite ennuyée parce que j'avais besoin déjà de réaliser, d'écrire, de faire quelque chose d'artistique. Ouais. Et je me suis naturellement dirigée vers le chant, mais assez sur le tard. Donc le processus créatif, il vient plutôt d'une émotion. Souvent, ça vient de quelque chose qui se vit dans le quotidien, une frustration, une douleur. Et puis, avec un plug and play, je dessine à l'oreille j'essaye de voir où ça fait mal, quoi. J'essaye de voir où ça va se connecter avec la douleur que j'essaie d'exprimer. Ça part souvent d'une douleur. Après, c'est pas toujours de la douleur. Parfois, c'est de la joie, c'est de l'émerveillement. Et puis de là se construit le titre, quoi. J'ajoute des petits, des électros, et puis un arpégiateur par là, une guitare par-ci, et puis
donc
ça se.
C'est pas forcément les paroles et puis la musique.
Jamais. Les paroles, elles viennent en tout dernier. Et alors, c'est fou parce que j'ai même ressenti une frustration par moment de devoir déposer un chant sur les orchestrations, alors parce que je les avais super travaillées. Et mais que les musiciens s'y étaient mis aussi, et que dans tout ça, il fallait encore mettre du chant. Et j'avais l'impression que ça allait pas forcément apporter quelque chose de rajouter une voix, et en plus du texte, parce que je trouve que les mots sont très imposteurs dans la musique. Parfois, elles viennent contrecarrer le message, en fait.
Qui fait quoi dans le groupe, en fait ? Est-ce que chacun apporte sa petite touche, au final ou
Ça n'a pas toujours été. Donc, pour l'EP, c'était plus dissous. On a tous travaillé dessus. Pour l'album, j'ai écrit la grosse trame. Après, évidemment, tout le monde s'approprie ses pistes et peut, évidemment, refuser de jouer ce que j'ai proposé, améliorer. Et c'est ça aussi l'objectif. Ouais. Quand on vient avec son énergie, avec son identité, si j'ose le dire, avec sa force, son énergie, et puis c'est ça qui fait que c'est intéressant, quoi.
En 2019, vous sortez votre premier single, Big Bam Boom, qui marche bien sur les ondes. On va écouter un extrait d'ailleurs.
Shout!
sortez Artifact, un EP composé de 5 titres. C'est à ce moment-là que moi, je vous découvre en live sur la scène du Zigzag à Ytre. On est en 2021. 2021, vous sortez également un nouveau single intitulé Jack of Hearts. Suivent quelques concerts et puis en mars 2023, vous entreprenez un voyage en Islande, un pays au paysage spectaculaire, mais vous n'y êtes pas que pour faire du tourisme.
Ah, non, c'était la plus belle rencontre de ma vie, sincèrement. On a rencontré donc Birgir Jön Birgisson, qui est l'ingénieur du son de Sigur Rós. On a pu travailler dans leur studio. C'était mythique, quoi.
Enfin, ouais. Pourquoi c'est un studio mythique?
Déjà parce que je suis méga fan de Sigur Rós. Je pense que c'est la cinquième ou la sixième fois que je vais les voir. J'irai les voir tant que je pourrai les voir. Enfin, ils sont fascinants. Pour moi, ce ne sont pas des personnes, ce sont des éléments. Ils sont incroyablement inspirants. Et donc, j'avais souvent vu des photos, des vidéos de ce studio. Et puis là, on était bookés dans un studio pour aller enregistrer ici en Belgique. Et puis finalement, au dernier moment, ça ne s'est pas mis. Et waouh, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et on avait pas le temps.
Donc, ce n'était pas quelque chose qui était programmé à l'avance?
Non, pas du tout. C'était notre rêve, mais on n'y pensait pas. Enfin, il ne fallait pas trop rêver, quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'on se dit, bon, il y a pas mal de studios en Belgique, pourquoi l'Islande, quoi?
Oui, l'Islande, elle a toujours fait partie de mes inspirations, mais de là à concrétiser ce rêve, on ne pensait pas que c'était le moment. Et puis, on a dû se remettre de cette décision de l'ingénieur du son de faire autre chose en Belgique. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et on a contacté Birgir. Et bizarrement, il m'a répondu.
Chouette.
Il m'a répondu qu'il était très intéressé et que ça lui botterait vraiment de bosser avec nous. Et ben, franchement, jusqu'au moment où on est arrivé devant la porte là en Islande, on n'était pas sûr que c'était pas un canular, quoi.
Ouais, ok.
Donc,
ceci dit, tu aurais pu visiter l'Islande. Et...
on la connaissait déjà, voilà. Mais c'est ce qu'on s'était dit.
Ouais, ouais.
Mais non. Et ben voilà, rentrer dans ce studio, voir le matériel installé de Sigur Rós, je connaissais toute la déco. Moi, je connaissais le studio tellement j'avais regardé des vidéos, des photos. Enfin, et puis là, mon micro était installé dans la salle de chant. Je dis waouh. C'était très confrontant.
Qu'est-ce qu'il a de particulier j'ai toujours du mal à me représenter le son qu'a un studio. On parle parfois du studio à Bayreuth, qui a un son particulier ici.
Mais déjà, il est planté au milieu d'un décor époustouflant. On est entouré d'eau. Donc, il y a tout un ruisseau qui contourne le studio. On a la vue sur là où Sigur Rós a joué, parce qu'ils ont fait quelques unplugs là, dehors devant le studio. Donc, c'est déjà complètement dingue. Puis, c'est Birgir aussi. Enfin. Et puis le son dans la cabine n'a rien d'exceptionnel. C'est pas ça qui m'a impressionnée. En plus, je devais chanter là au milieu d'un immense espace. En général, ici en Belgique, on est dans des tout petits espaces confinés dans les cabines chants. Et là, en fait, je chantais dans une piscine. Donc à la base, ce lieu-là, c'est une ancienne piscine qui a été retravaillée et rachetée par le groupe pour devenir un studio. Donc en fait, la cabine des musiciens.
C'est une piscine.
C'est une piscine.
D'accord.
Donc c'était dingue, quoi.
Parce que j'ai lu qu'on parlait d'un son unique d'avant-garde avec des polarités de cosmos nordique. Voilà.
c'est par rapport aux sonorités de l'album et au travail de mastering et de mixage, oui.
Donc voilà, on va parler de l'album pour notre plus grand plaisir. Vous êtes de retour avec un nouvel album de 10 titres dont on a entendu le nom tout à l'heure. Alors, un album qui est disponible sur les plateformes depuis le 15 mars. Fin de l'année dernière, on avait déjà pu entendre Shame en radio, le premier single de ce nouvel album. Il parle de quoi, ce morceau?
C'est un ballet poétique entre la honte et l'ego. Souvent, et surtout dans les niveaux qui se cherchent, dans la musique ou dans le milieu artistique, il y a beaucoup d'ego qui se met en place. Et ce n'est pas toujours facile de se défendre contre ça, de faire avec. Déjà, au sein du groupe, ça, on peut parfois déclencher des égos sans s'en rendre compte. Et puis, on est vite dans des conflits, du coup, il faut faire attention. On a nous-mêmes un propre ego et on doit en avoir conscience. Et puis alors sur scène aussi, on rencontre les égos des autres. Donc il y a des enjeux en permanence et surtout dans les niveaux, du milieu artistique qu'on peut côtoyer pour le moment. Parce qu'il peut y avoir une certaine compétition. Et puis il y a aussi des compétitions avec soi-même, quoi, des histoires qui nous sont propres et qui font déclencher nos égos pour survivre.
C'est ça. Est-ce que toutes les paroles des chansons sont à prendre au premier degré ? Est-ce que c'est important pour vous que les chansons soient bien comprises ou vous préférez que les gens se fassent leur propre idée des chansons ?
Je suis pas certaine qu'on comprenne toujours les chansons de prime abord, et c'est pas grave, parce que chacun peut prendre ce qu'il veut. Dans les chansons, et puis il y a des personnes qui n'écoutent pas les textes aussi, pour qui c'est pas important.
Oui, ou qui ne comprennent pas.
Et c'est pas grave non plus. Enfin, je me dis, il y a autre chose à prendre dans la musique que les paroles, que les mots. Mais pour moi, en tout cas, ils ont du sens. J'écris ceux-là et pas d'autres, parce que pour moi, à ce moment-là, ils avaient du sens. Mais je pense qu'on peut les comprendre à plusieurs niveaux.
D'ailleurs, le single Shame, il est accompagné d'un clip. Un clip aux allures un peu burtoniennes, comme j'ai pu lire. On est en plein dans l'univers de Jane Doe, là.
Ah oui, complètement, oui. Les deux personnages, c'est le même personnage, mais c'est l'ego face à l'insouciance, la créativité pure, et puis l'ego qui se met en place. Et c'est pas facile dans tout ça, on peut se perdre.
Donc ça, c'était le single Shame, et puis en début d'année, vous sortez deux nouveaux morceaux, My Favorite Walking Dead et Danse d'un pas, morceau en français. C'est une envie de chanter en français ou c'est assez surprenant ?
Je pense que j'ai... Alors, tout à l'heure, je vais me contredire là parce que j'avais déjà ce texte. Danse d'un pas, j'avais écrit quelques lignes pour un événement particulier que j'avais diffusé sur la page, mais ce n'était pas une chanson. Et ces paroles-là m'étaient arrivées comme ça dans un événement et je me suis dit, c'est vraiment relié avec un vécu et ça vaudrait peut-être la peine que je les chante en français, quoi. L'idée n'était pas d'écrire un titre en français, c'est parce que ce texte est arrivé dans mes mains. Je l'ai vu se dessiner, puis je me suis dit, bah oui, en fait, il me fait vibrer, je vais en faire quelque chose. Oui,
ouais, c'est surprenant. Hein. C'est important de sortir des singles avant la sortie de l'album, en fait.
C'est même un peu la case obligatoire, quoi.
Ça sert vraiment à faire découvrir l'album ou
Ça sert. Je suis pas certaine que les singles servent toujours à faire découvrir un album. Je pense qu'ils servent surtout à donner de l'actualité et aussi à essayer de toucher justement des médias susceptible de faire la présentation des artistes, mais c'est pas toujours représentatif de ce qui existe au cœur de l'album.
Oui, parce que sur un album,
c'est un reflet, quoi.
Voilà, on peut sur 10 titres, on peut aimer 3 morceaux qui sont pas forcément les 3 premiers singles qui sont sortis. Est-ce que ça dessert pas un petit peu en fait ça peut desservir l'album.
C'est dangereux, oui, ça peut.
Ouais. Et c'est en fonction de quoi ? C'est votre choix ? C'est le choix des radios ?
C'est pas notre choix, non. C'est pas toujours notre choix. Nous, on écrit des chansons et puis. On nous dit, ça peut être intéressant pour notre radio, on peut la diffuser, mais c'est pas toujours notre choix.
Alors, le 12 avril 2024, vous serez sur la scène du Cirque Royal. Y a pire comme endroit pour présenter son nouvel album. C'est un rêve de jouer dans une salle mythique comme le Cirque Royal ?
Disons qu'ici, c'est le Cirque Royal Club, mais on est déjà très, très, très contents.
Mais c'est la même adresse.
C'est la même adresse et bien sûr qu'on est très contents. Déjà pour l'héritage historique, c'est pas n'importe quel lieu, quoi. Par rapport à la couleur du projet, c'est un lieu qui s'y prête à merveille. C'est très théâtral et finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu dans du théâtre, dans Jane Doe, on est dans des personnages
Pour vous avoir vu sur scène, ouais, je peux confirmer qu'il n'y a pas que la musique, il faut aussi aller voir Jane Doe et pas seulement écouter. Alors, est-ce qu'on peut encore se procurer des tickets ?
Il en reste quelques-uns.
Où ça ?
Sur la billetterie, donc on peut trouver, si on va sur Jane Doe, tous les liens, jendo-music.com, c'est notre site. Ouais. On trouve toutes les informations sur notre page Facebook aussi, sur Instagram, il y a moyen de trouver, quoi.
Ok, qu'est-ce qu'on peut encore trouver d'autre sur votre site ?
Qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver un court extrait de notre voyage en Islande, qui donne un chouette aperçu, je trouve, des ambiances, des polarités nordiques, etc. On était justement dans une tempête de neige.
Oui, j'ai vu, je confirme. Il faut aller voir.
Quelques clips, des dates. Pour l'instant, c'est pas encore mis à jour, mais il y aura bien sûr d'autres dates à venir après le Cirque Royal. Toute notre actualité, nos photos, etc. Quoi.
Quel est le moment le plus fort de votre carrière jusqu'à présent ? Je pense que vous avez répondu à ça il y a quelques minutes.
Oui. C'était ce fameux voyage en Islande, cette collaboration avec Birgir. Oui.
C'est ça. Et puis ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon en 2024 ?
Qu'est-ce que j'aurais envie de nous souhaiter ?
C'est quoi les rêves de Jane Doe ?
C'est de poursuivre, mais de poursuivre, peut-être encore de faire des rencontres. Des rencontres, c'est chouette dans la musique. Des collaborations, des rencontres, de garder l'inspiration, de continuer à faire grandir nos personnages, notre histoire. Voilà, tout ça, que ça continue, quoi.
Quand tu parles de collaboration, c'est collaborer avec d'autres artistes sur
ouais,
scène.
Ça peut être chouette aussi. Ouais, ouais, ouais. Sur scène ou même qui sait, enfin, on est ouvert à tout.
La musique de Jendo peut se prêter à une autre personne, quelqu'un qui peut venir chanter avec vous ou c'est plutôt l'inverse?
Ça, c'est un exercice qu'il faut essayer pour savoir y répondre, je pense. Je ne sais pas. Je suis sûre que oui, qu'il y a toujours moyen de collaborer avec des personnes avec qui il y a des affinités, avec qui il y a une sensibilité. Maintenant, je ne sais pas qui. Comme
allez,
ça.
On veut des noms.
Dans les artistes belges, vraiment, je n'ai pas réfléchi à ça. Ben là, justement, je viens de faire un duo complètement inattendu avec BJ Scott. Et vraiment, ça, je n'aurais jamais pensé que les voix allaient pouvoir s'accorder. Et pourtant, j'ai vraiment pris mon pied à chanter avec
elle. Je pense que BJ Scott peut faire des duos avec tout le monde.
Mais là, moi, je doutais. Je me disais, waouh, les influences ne sont pas du tout les mêmes. Les tonalités ne sont pas les mêmes. Les approches ne sont pas les mêmes. Et ça a matché. Enfin, moi, j'ai adoré chanter avec elle. Donc voilà.
Super. Eh bien, merci Laetitia d'être venue nous présenter votre nouvel album. Ce fut un véritable plaisir pour moi de vous recevoir sur Ultrason. Alors, je vous rappelle que le nouvel album de Jendo est disponible sur toutes les plateformes. Est-ce qu'il sera aussi en format physique?
Il sera en format physique, mais uniquement sur les lieux des concerts.
Alors, n'hésitez pas à aller voir justement Jendo en live, hein, c'est là que ça se passe, au Cirque Royal de Bruxelles, le 12 avril. Et pour vous procurer les places, il suffit de vous rendre sur jendo-musique.com. À très bientôt. Merci Laetitia.
Merci Mike. You're shining brightly since yesterday. Your heart in your star ignites.